Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande compétition qui chaque après-midi met aux prises les tout meilleurs journalistes d'Europe 1. Des journalistes qui, même dans le combat, restent toujours élégants et fair play. Enfin, ils essayent.
Savez-vous, jeune homme, que je vais vous foutre mon pied au cul.
Oh, messieurs, messieurs.
Mais la ferme.
Comment la ferme?
Je dis ça à l'autre. Est-ce que vous me parlez pour une prostituée, bougre la boutique?
Pour compter les points et ramasser les dents, Eva Rock est évidemment présente à mes côtés. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir sur les écrans. Mais d'abord, présentons nos deux ultimes concurrents du jour. En duplex avec nous du Perche, où il a planté il y a quelques années son gros télescope, le directeur émérite de Ciel et Espace, notre consultant scientifique qui parfois nous propose des sujets vraiment passionnants, parfois un peu moins.
Quel est l'ongle qui pousse le plus vite?
Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Aujourd'hui Alain, c'est une question plus primordiale et plus urgente que de savoir quel est l'ongle qui pousse le plus vite qui vous agite.
Mais oui, j'ai hésité d'ailleurs à vous proposer ce sujet parce que parler de trous noirs dans l'équipe est sauvage, je sais que ça peut déclencher des réactions qui ne sont pas tout à fait scientifiques, mais c'est une découverte tellement géniale, tellement formidable que je me suis dit que finalement tous nos amis, tous les enfants en particulier qui écoutent cette émission vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Quel est ce monstre stellaire?
C'est dangereux.
Qu'on a découvert par hasard à 1000 années-lumière de la Terre.
On est tranquille, 1000 années-lumière.
Mais c'est dangereux, 1000 années-lumière, ou il peut nous bouffer le trou noir?
Oh, c'est astronomiquement la porte à côté, mais alors, si vous alliez avec une fusée actuelle à 1000 années-lumière, il vous faudrait quelques 100 millions d'années de voyage.
Je suis rassuré, c'est bien. Votre rival du jour, Alain, a certes complètement pété les plombs avec le confinement, découvrant au grand dam de son épouse une part de lui-même qu'il ignorait ou qu'il refoulait auparavant. Bon, là, le Queen est encore fermé, mais il est prêt pour cet été.
Moi aussi, je veux être un monstre. Oui. Je veux être un loup-garou.
Oui, bonjour Fred Goetti. Oui, la fête va être folle, certainement, quand les boîtes vont ouvrir. Sacré changement de votre vie en perspective. Vous êtes le directeur de Jazz Magazine aujourd'hui, peut-être de Têtu demain. En attendant, vous teniez à fêter aujourd'hui un anniversaire très important, Fred. Pour vous, mais pour nous tous, en fait.
Ouais, j'aurais pu évidemment vous raconter la genèse de Happy Birthday, mais Eva Rock l'a déjà fait brillamment sur cette antenne il y a quelques mois. J'aurais pu aussi vous livrer les secrets de fabrication des tubes en or massif de Stevie Wonder, mais je me suis dit, j'allais plutôt revenir aux sources du génie de Stevie Wonder et vous faire entrer dans l'intimité de son studio d'enregistrement.
Carrément.
Pour assister à la naissance d'une chanson culte de 1972.
Ah, génial.
Alors,
génial.
Les secrets de Stevie Wonder à l'occasion de son 70e anniversaire, ou bien les secrets de ce trou noir qui menace notre système solaire comme dans Interstellar, lequel de ces sujets aura votre préférence? Réponse juste avant 18h, mais là tout de suite. C'est l'heure du mix.
Oui, avec Jarry en grande conversation avec ses jumeaux, Mathieu, le talon de la chanteuse Noah qui interprète du Bach depuis Tel Aviv pour le site du Nouvel Obs. Deux chanteurs français, alors vous allez bien écouter, pour une reprise de Just the Two of Us. Écoutez bien parce que vous allez devoir me dire de qui il s'agit. Et puis on commence avec Oxmo Puccino et Jane pour un duo enregistré à distance à l'invitation de la créatrice Agnès B.
Remettre chaque jour au lendemain, comme si on ne partait pas lentement.
Let me dream again. Let me dream till the end of the day.
Qu'est-ce qui se passe? Vous vouliez parler à papa. Qu'est-ce qu'il y a, mon Tim?
Moi, je veux me marier avec ma sœur.
Tu veux te marier avec ta sœur?
Oui.
Et toi, ma chérie, tu veux te marier avec ton frère?
Oui.
Mais les enfants, c'est pas possible. On n'habite pas le bon département.
No, baby, no, baby, no, baby, no. Don't you ever say you're gonna go and leave me. No, baby, no, baby, don't ever go. When I'm with you, I'm elated. All the rest is overrated. Every word you say and every moment of the day. Scooby-Doo, the show-by-doo. But kiss me, shine like a doo. But kiss me, stay like a rope every single day.
Quoi? Bon, vous savez quoi? Je vais appeler Macron. Vous voulez que j'appelle Macron?
Oui.
Bon, je vais appeler le président Macron, d'accord?
Hein?
Et lui, il est marié avec qui, le président Macron?
Il est marié avec sa maman.
Avec sa maman? Bon, beaucoup de choses à leur expliquer.
See the crystal raindrops fall and the beauty of it all when the sun comes shining through.
To make those rainbows in my mind when I think of you sometimes and I want to spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, you and I.
Vu le niveau, je crois reconnaître, mais je peux me tromper.
Hein,
mais vraiment, à l'oreille, comme ça, je dirais Anissé Mbida et Jean-Philippe Ballas.
Alors, c'était presque ça. C'était presque ça. C'était Gad Elmaleh et Tom Leb. Et
oui, dis donc.
Voilà, je trouve le duo magnifique. Voilà. C'était un mix qu'on a concocté avec Sébastien Bordonnave en prenant tout ce qu'on trouvait de mieux sur les réseaux sociaux lors de ces dernières heures. Vous avez notamment entendu la chanteuse Noah, absolument magnifique pour le site du Nouvel Obs. Allez écouter. On dit l'Obs, pardon, c'est plus le Nouvel Obs, c'est l'Obs. Allez écouter ça sur les réseaux, c'est sublime.
C'est noté, Eva. L'un est dans le Perche, l'autre à Paris, mais ils sont tous les deux complètement à l'ouest. Alain Sirou et Fred Goetti vont s'affronter au service de votre savoir.
Europe 1.
Et c'est Fred Goetti qui va ouvrir les hostilités avec une chronique anniversaire. Et oui, aujourd'hui, Stevie Wonder va pouvoir se chanter lui-même Happy Birthday, sacrée chouille en perspective. Et l'occasion pour nous de vous révéler tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Stevie, sans jamais oser le demander. À tout de suite.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. Sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Quand on déprime, que rien ne va, quand on vient de voir un documentaire sur la déforestation ou une conférence de presse d'Olivier Véran, bref, quand on a le moral à zéro, il y a une solution bien plus simple que le Prozac. D'écouter ça. Stevie Wonder a 70 ans aujourd'hui. Pour porter le gâteau d'anniversaire, qui de mieux que Fred Goetti, le directeur de Jazz Magazine, qui, c'est vrai, parfois me fait peur quand il me prend à part dans un couloir sombre pour me susurrer.
Tu sais, je ne suis pas comme les autres garçons.
Mais c'est quand même le plus cultivé musicalement d'entre nous. Fred, aujourd'hui, vous nous révélez des choses sur Stevie Wonder.
Non, mais d'abord, j'aimerais qu'on retourne dans le monde d'avant. Vous vous souvenez du monde d'avant?
Oui.
En 1963. Il y a deux mois. Ah non, 63.
Pour écouter un petit garçon de 12 ans mettre le feu sur scène et... Attendez, pardon. Attendez, je vérifie mes fiches. Oui, c'est bien ça. 12 ans. Et j'avais d'ailleurs noté de vous préciser, par quel miracle peut-on avoir si jeune un son d'harmonica déjà unique au monde? I'm gonna swing the song, yeah. Just a one more time. When I come back, just a one more time. When I come back, so goodbye. Mm.
12 ans.
Alors ça, voilà. Il mettait déjà tout le monde d'accord.
Ouais.
12 ans, mesdames, messieurs. Alors ça, c'est Fingertips, le premier 45 tours numéro 1 aux États-Unis de. Little Stevie Wonder à l'époque, hein, c'était son surnom. Alors pour la petite histoire, c'est son coiffeur qui lui avait offert son premier harmonica. Vous vous rendez compte? Moi j'y suis allé hier chez le coiffeur, il m'a rien offert. Enfin bon, tant mieux. Bon, jusqu'au bout des années 70, Stevie Wonder va enregistrer des disques en respectant les règles très strictes de sa maison de disques Motown. Travailler avec les musiciens maison et surtout sur les ordres du grand patron et créateur du label Berry Gordy. Sauf qu'un jour de 1971, il va se faufiler en douce en studio et...
Cette version de We Can Work It Out est géniale, Fred, mais il y avait déjà eu beaucoup de reprises des Beatles à cette époque.
Certes, mais pas enregistrées de façon quasi clandestine par un phénomène qui, je vous le rappelle, jouait de l'harmonica, du piano, de la basse, de la batterie et qui, accessoirement, chantait comme un dieu. Alors, inspiré par les Beatles, justement, mais aussi par Bob Dylan et évidemment marqué par le mouvement des droits civiques dans les années 60 aux États-Unis, certains artistes Motown commençaient à vouloir s'émanciper. Marvin Gaye notamment avec le sublime « What's going on ?». Eh bien, notre ami Stevie Wonder a lui aussi décidé de faire de la musique, à ce moment-là, comme il l'entendait. Il a donc menacé, un, de quitter Motown, deux, de ne pas renouveler son contrat, et puis surtout il est parti à New York, s'enfermer dans le studio de Jimi Hendrix pour enregistrer quasiment 24 heures sur 24. Et un jour, enfin plutôt une nuit hein, précisément, Jeff Beck était en studio avec lui, et pour s'amuser, ce grand guitariste anglais s'est mis à la batterie et Stevie il a adoré ce rythme-là.
Mais c'est l'intro de Superstition, ça.
Bravo. Le type, il a l'oreille musicale de fou, quoi.
Vous insinuez... Attendez. C'est grave ce que vous dites. Vous insinuez que j'aurai une relance sur laquelle ça a écrit, mais c'est l'intro de Superstition que je ne l'aurais pas reconnu à l'oreille.
Non, exactement.
C'est dégueulasse, c'est pas. Vous êtes odieuse.
Bravo, Mathieu. Oui, et c'est donc Jeff Beck qui avait trouvé ce rythme. Mais là, donc, c'est Stevie Wonder lui-même qui jouait. Et puis comme ça, Spontanément, dans le feu de l'action, Stevie a ajouté cette fameuse partie de clavier.
La musique du Grand Journal. Vous voyez, j'ai Louis Fine.
C'est vrai. Mais touché par la grâce, Stevie Wonder a rapidement écrit des paroles et bon, alors, pour la grande histoire cette fois, Stevie Wonder avait d'emblée offert Superstition, vous avez reconnu Superstition, ouais, à Jeff Beck, mais en réalisant que c'était quand même plutôt un chef-d'œuvre,
ah oui,
il s'est empressé de l'enregistrer avant lui.
Ah oui, quand même les génies peuvent être un peu mesquins quand même. Hein. Oui, attention,
quand même, là, il s'est dit, elle est pas mal cette chanson, j'ai peut-être la garder pour moi. Bon, attendez, Mathieu, Eva, bon, je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais nous sommes en studio avec Stevie Wonder. Chut, il fait les voix là.
Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious.
Le son, il est dingue, on entend vraiment l'articulation.
Oui, d'ailleurs, si vous pouviez vous taire, ça serait encore mieux.
13 month old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck.
Ça laisse sans voix, n'est-ce pas?
Là, c'est génial.
Good things in your past.
En écoutant ça, d'ailleurs, je me dis que j'aurais mieux fait de l'appeler pour chanter à ma place pour l'anniversaire d'Eva il y a quelques semaines.
C'est vrai. Bon.
Résultat, Superstition fut le deuxième 45 tours numéro 1 de Stevie Wonder, 9 ans après Fingertips. Bon, allez. C'est son anniversaire, c'est notre anniversaire un petit peu aussi. Je vous fais un dernier petit cadeau. L'une des plus belles mélodies de Stevie Wonder, jouée par le saxophoniste Nadji pour sa petite fille, comme un clin d'œil un peu à la version originale de Stevie Wonder où on entendait le doux babil de la fille de Stevie, Aisha. J'ai envie de dire quiz, mais c'est vraiment trop facile.
C'est trop mignon.
Vous arrivez à faire sortir la tendresse en moi, ouais. Fred Goetti, c'était Isn't She Lovely, évidemment.
Mais oui.
Et oui, et oui. Trop facile.
Trop facile, mais trop beau. Merci Fred Goetti de nous avoir entraînés dans le studio de Stevie Wonder.
On y était, ouais, carrément.
Un dernier mot.
Je veux être un loup-garou.
Oui, les soirées déguisées vont reprendre bientôt. Vous bilez pas, mon grand.
Europe 1.
C'est un des plus gros risques du déconfinement pour tous les célibataires qui ont rangé leur faim pendant 2 mois. Sortir et pécho n'importe qui. Le premier venu.
J'ai embrassé quelqu'un.
Quoi ? Mais qui ça ?
Je sais pas.
Ne faites pas la même erreur qu'Eva et suivez plutôt ses conseils. Ce soir, pour éviter de faire une connerie, restez plutôt devant votre écran. Eva vous dit quoi regarder. A tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
En confinement, vos pauses café entre collègues vous manquaient. 3 jours seulement après la reprise, vous saturez déjà. Chacun, ayant regardé les chaînes infos en continu pendant près de 2 mois, a un avis éclairé sur la solution sanitaire qu'il convient d'adopter pour sortir de la crise. Les débats s'envolent, les esprits s'enflamment. Vous avez déjà la tête comme une pastèque.
Andouille !
La médecine est une chose sérieuse.
Vous avez jamais entendu la chanson qui dit « La médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien ».
Nous n'écoutons probablement pas les mêmes chanteurs. Personnellement, j'aime beaucoup l'opéra.
Oui, finalement, qu'il est bon de rentrer se reconfiner chez soi et de s'affaler sur le canapé pour mettre une bonne série, n'est-ce pas Eva ?
Oui, mais alors je risque de vous plomber un tout petit peu l'ambiance au début de cette chronique. Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu la chance de rencontrer Raphaël Pitis, un ancien médecin général des armées. Il est toujours en activité. Il a vraiment connu tous les terrains de guerre, mais il a particulièrement été marqué par la Syrie et il n'a eu de cesse d'alerter la communauté internationale sur le drame humanitaire qui s'y déroule. Et il m'avait alors dit, si vous voulez comprendre ce qu'est la vie à Alep pendant les bombardements, regardez le film documentaire intitulé Pour Sama. C'est un film qui est diffusé ce soir sur Canal Plus à 21h. Je l'ai regardé et je dois vous dire que ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Le film débute avec la voix d'une maman qui chante une berceuse à une petite fille et écoutez bien les bruits derrière.
Maman, ça va.
Ce ce que vous entendez, ce sont le bruit des bombes qui tombent sur Alep. Et Sama, c'est cette petite fille qui est née en janvier 2016 à Alep. Sa maman, la journaliste Wad Al-Khattab, elle était étudiante en 2011 à Alep au moment où ont éclaté les premières révoltes étudiantes, violemment d'ailleurs réprimées par le régime du président Assad. Et depuis, elle n'a jamais arrêté de filmer son quotidien, celui de son mari, Hamza, qui est un jeune médecin, ses amis, la population. Et puis surtout, cette vie à l'hôpital. Alors c'est un hôpital de fortune où débarquent des familles qui sont frappées par les bombardements, les tirs de missiles et les gaz. Je pourrais vous dire que c'est horrible, mais en fait c'est pire que ça. Le témoignage de cette journaliste est d'autant plus fort qu'au milieu de ce quotidien qui est innommable, eh bien elle parvient à raconter des instants de vie heureux. Son mariage, son accouchement, ses espoirs, ce rêve qu'elle poursuit avec son mari, être libre à Alep. Alors attention, les images sont très dures, mais je ne crois pas avoir vu un documentaire aussi fort. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est la vie à Alep ces dernières années, il faut absolument regarder pour Sama, et au passage, il faut vraiment louer l'audace de Canal+ de proposer ce film à 21h. Exactement.
Effectivement. Et puis quand on dit qu'on est en guerre, ça nous permet de relativiser que c'est que d'être vraiment
c'est
en guerre. Et si on n'a malheureusement pas Canal+,
et que vous voulez vous divertir, vous allez sur France.tv, la plateforme de France Télévisions, qui a la très bonne idée de mettre à disposition gratuitement des séries qui ont déjà été diffusées, alors notamment Chef, c'était en 2015, Le Chef, incarné par Clovis Cornillac, qui est une figure célèbre de la gastronomie et patron d'un restaurant.
J'ai mis 30 ans à en arriver là où j'en suis. 30 ans à bosser comme un chien, 16 heures par jour, 6 jours sur 7. À suer dans une chaleur, à brûler la couenne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, j'ai même pas d'argent, rien. Tout ça parce que mon métier, c'est ma vie, c'est toute ma vie.
Bonjour à tous.
Et alors, chaque année dans sa brigade, il réserve un poste à un jeune délinquant. Alors en l'occurrence, c'est Romain, il est interprété avec brio par Hugo Becker, qui débarque et qui va se révéler extrêmement talentueux. Alors Chef raconte le quotidien de ce restaurant, de cette brigade entre égo surdimensionné et concurrence malsaine. C'est vraiment traité comme un polar avec en décor le milieu de la gastronomie. Moi j'avais adoré, notamment la première saison, plus que la seconde d'ailleurs, mais je vous recommande vivement une séance de rattrapage sur le site de France.tv, Chef avec Clovis Cornillac.
Le problème c'est que ça donne extrêmement faim de regarder ce genre de série, non ?
Oh oui, je vous confirme.
Heureusement, Olivier Pouls va nous rejoindre tout à l'heure pour nous donner une petite recette. Merci Eva.
Europe 1.
Il fait partie de ces scientifiques qui travaillent actuellement sans relâche pour trouver une parade au Covid-19 et il semble être sur la bonne voie.
On est en train de fabriquer la potion magique.
Plus barge que le professeur Raoult, le professeur Siroux qui vient aujourd'hui, si j'ose dire, enfoncer le clou. Puisqu'après nous avoir prouvé l'existence de la vie extraterrestre tout à l'heure, nous allons maintenant vous expliquer qu'un trou noir géant a été découvert un peu trop près de notre système solaire. Comme dirait Mathieu Charrier,
nous allons serrer les fesses.
Tous les détails, juste après Sophie Ellis Bextor, Murder, notre dancer. Vous vous souvenez de ça, Eva?
Alors, il faut que je l'entende.
Ah bah,
parce que
des fois,
le titre me dit rien.
Je vais vous dire un truc, tout le monde s'en fout, mais je pense que c'est le dernier single que j'ai acheté en CD, en format, en format CD. Oui.
Écoutons
ça. C'est une belle histoire.
Allez.
Écoutons-le.
It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know. About your you better.
de Dance Floor, c'était Sophie Elise Bextor sur Europe.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est presque une émission thématique aujourd'hui, Eva. Puisqu'après avoir évoqué tout à l'heure avec Anis Mbida le protocole que le Japonais était en train de mettre en place pour contrer une éventuelle attaque extraterrestre, et alors qu'Eva Rock se prépare elle aussi.
Tout ce que je peux te dire, c'est que la télé, ils l'auront pas.
Nous allons maintenant évoquer un léger pépin qui pourrait s'avérer plus fâcheux que n'importe quelle épidémie ou n'importe quelle invasion extraterrestre, la découverte d'un trou noir en périphérie de notre système solaire. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un trou noir, Alain Sirou? Là, les Japonais ont un protocole pour ça. Enfin, j'exagère un peu, Alain, puisque j'ai survendu un peu le sujet en disant que c'était dangereux. En fait, ce n'est pas dangereux du tout. On a découvert un trou noir, mais il est quand même extrêmement loin.
Ce qui est intéressant, en fait, c'est l'histoire de la découverte. Vous savez, c'est une histoire qui a démarré il y a quelques mois avec des astronomes européens dans le grand désert de l'Atacama au Chili. Bon, il devait être en train d'écouter Stevie Wonder, vous voyez, et puis rigoler en regardant des articles qui parlent des ovnis. Et il faisait finalement une étude assez simple. Il regardait un couple d'étoiles dans une constellation, ça va vous amuser, qui est la constellation du télescope. Vous savez que ça existe vraiment.
Ah oui.
Exactement, constellation du télescope. Et donc, il regardait deux étoiles qui sont un couple stellaire. Et puis, ils faisaient des mesures sur ces étoiles et ils ont découvert que ce couple d'étoiles tournait autour d'un centre totalement invisible. Un objet qui n'émettait aucune lumière et dont ils ont mesuré vraisemblablement la masse, quelque chose qui devait avoir la masse de 4 fois celle du Soleil et qui, sans doute, tient dans une petite boule invisible de quelques kilomètres de diamètre. Et pour la première fois, on a découvert, alors près de la Terre, donc c'est 1000 années-lumière, en astronomie c'est juste à côté, quoi, un trou noir stellaire autour duquel tournent 2 petites étoiles.
Mais alors, on rappelle ce qu'est un trou noir, Alain.
Mais alors, de façon simple, hein.
Oui.
Alain, s'il vous plaît.
Oui, alors, je vais essayer de le faire parce que, en fait, le mot trou noir, c'est un terme générique. C'est comme si vous disiez un arbre.
Ah,
et puis, dans la nature, vous avez des pommiers et vous avez des baobabs. Mmh. Vous voyez? Donc, les baobabs, c'est les géants. Donc, il y a des trous noirs très, très gros, très géants. Et puis, nous, là, on est plutôt dans un pommier. Alors, comment ça se fait? En fait, aucun astre ne naît trou noir. Ce qui se passe, c'est que vous avez dans le ciel plein d'étoiles. Le Soleil est une étoile. Vous en avez plein dans la Voie lactée. Et en fait, les étoiles sont un petit peu comme les individus d'une population. Vous en avez des petits, des nains, mais vous avez aussi des géants, des obèses. Et vous avez des étoiles très grosses qui, lorsqu'elles ont plus de 40 fois la masse du Soleil, terminent leur vie dans un feu d'artifice. En fait, elles explosent quand elles meurent. Et quand elles ont explosé, ce qu'on appelle des supernovas, eh bien, il reste un cœur, un astre dont la gravité est tellement, tellement, tellement importante, tellement dense, c'est comme si vous aviez un noyau de fer. Vous voyez que il s'effondre sur lui-même, il s'écrase littéralement, à tel point que même la lumière ne peut plus s'en échapper. D'où le mot trou noir. Et en fait, si vous preniez la Terre et que vous la réduisiez au volume d'un trou noir, eh bien, vous pourriez la faire tenir dans un dé à coudre.
Ah ouais. Mais qu'est-ce qui se passerait si un trou noir... Là, le trou noir, il est à 1000 années-lumière, ok? C'est trop loin pour nous aspirer. Ouais. Mais s'il y avait un trou noir qui surgissait juste au niveau de la Lune, par exemple, un tout petit peu plus loin, à niveau de Vénus, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça aurait comme effet sur la Terre? Est-ce qu'on réfléchit à ça?
Oui, ben je vais vous surprendre, mais il ne se passerait rien.
Oh, ben c'est nul!
Parce que, en fait, il faudrait s'approcher très très près. C'est comme si vous aviez un trou dans la moquette qui est à la taille d'une tête d'épingle, vous voyez. Vous ne risquez pas de passer à travers.
Ah, d'accord.
Parce que c'est très petit, parce que c'est extrêmement dense. Et qu'en fait, je dirais qu'il faut être juste à côté, il faut être attrapé en quelque sorte, comme quand vous passez avec un champignon de flipper, vous voyez. La boule, elle cogne sur le champignon de flipper, puis elle est renvoyée. Mais si ça passe juste à côté, il se passe rien. Donc, au bout du compte, je dirais que ce qu'on a découvert là, c'est un objet qui est totalement invisible. Et c'est ça, en quelque sorte, la prouesse
de l'avoir découvert.
C'est drôle,
en fait.
Ouais.
Est-ce qu'il peut y avoir des trous noirs non découverts encore qui seraient en fait plus proches de nous? Peut-être même dans notre système solaire.
Alors là aussi, je vais vous surprendre, Mathieu. D'après les astronomes, il y en aurait des centaines de millions.
Ah oui.
Des centaines de millions.
Dès qu'une étoile explose. Ouais.
Et oui, parce que vous avez raison, Eva. Ce sont des étoiles géantes qui ont explosé et dont le cœur est dissimulé quelque part. Le problème, c'est que ça n'émet pas de lumière. Vous ne les découvrez que lorsque quelque chose passe à proximité et très près. Donc, je dirais qu'en fait, la recherche ne fait que commencer. Et elle va être passionnante parce que on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Est-ce qu'on peut s'en évader ? Qu'est-ce qui se passe dans
cette incroyable densité ? Est-ce que le temps est modifié ? C'est une question que certains films de science-fiction posent. À l'intérieur d'un trou noir, est-ce que si on entrait dans un trou noir, on pourrait ressortir à une autre époque,
sans
un autre endroit,
ouais.
Sans
certains avaient imaginé le trou blanc, par exemple, qui était l'inverse du trou noir.
Ça serait quoi, le trou blanc ?
Ben, ça serait l'inverse du trou noir, c'est-à-dire de la matière qui jaillit de l'espace sans qu'on comprenne d'où elle sort, en quelque sorte, plutôt que de rentrer à l'intérieur.
Et Eva me signale c'est l'existence du trou normand, un autre trou qui peut être aussi dangereux si on a trop mangé déjà avant. Merci Alain Sirou. Eva, vous avez compris cette histoire de trou noir ?
Oui, non.
Oui, c'est bien ce qui me semblait.
Europe 1.
Eva, ça vous a plu cette chronique sur les trous noirs ? Surtout le trou blanc, je sens que c'était troublant finalement de basculer sur le trou blanc, de passer du trou blanc au trou noir, c'est là
c'est
qu'il ne faut pas se tromper. Quoi.
Ouais.
À voir. Avoir un invité en studio, Eva, c'était souvent formidable. Surtout quand l'invité était une invitée et que sous couvert de... Avec la musique qui continue derrière, le moment est totalement surréaliste. On s'excuse auprès de nos auditeurs, on a un fou rire par rapport à la chronique d'Alain Sirou, alors que moi je tente de lancer la suite, c'est-à-dire vous parler de notre invité, puisque depuis quelque temps on n'a plus d'invité forcément en studio, mais on vous passe un petit best-of. Alors vous savez quoi ? On se retrouve dans un instant avec le meilleur moment de notre émission avec Johan Sfar, le fameux dessinateur. Ça sera plus simple comme ça, je crois.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipé sauvage. L'équipé sauvage sur Europe 1, 16h, 18h, Mathieu Noël.
Dresser une shortlist des meilleurs invités de l'équipé sauvage relève de la torture. Tant d'invités nous ont surpris, Eva, par leur générosité, leur drôlerie aussi. Mes préférés, ceux qui n'hésitaient pas à se foutre de la gueule de l'émission, de nos rubriques et surtout de la rubrique d'Eva, comme son compatriote niçois, le dessinateur Johan Sfar. On perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix. Heureusement, il existe désormais YouPorn. Johan Sfar, c'était vraiment une belle rencontre et c'était le 24 octobre dernier. Johan Sfar, sa spécialité, Eva, la bande.
Bande d'enfoirés.
Dessiner. D'accord. Bonjour Johan Sfar.
Bonjour.
Demain sort le tome 9 de ce qui est devenu une des BD les plus célèbres de France, Le Chat du Rabbin, La Reine de Shabbat. Si quelqu'un parmi nos auditeurs avait passé les 10 dernières années dans une communauté décroissante du Larzac sans wifi à fabriquer des bûchettes cendrées de brebis et ne connaîtrait donc pas Le Chat du Rabbin, comment vous présenteriez à un extraterrestre cette bande dessinée ?
Bah, c'est l'histoire d'une bande dessinée qui essaie de sortir le même jour qu'Astérix. Et c'est le moment où je me demande si c'était une bonne idée ou pas. Et comme mon père m'a toujours dit d'avoir confiance en moi, je me dis on va le niquer.
On va niquer Astérix. Franchement, on va commencer par ça. Il n'y a que vous qui pouvez sortir un album le même jour qu'Astérix et avoir des chances
de l'exploser.
Vous êtes le seul, à peu
près. Mon attaché de presse m'a dit rassure-toi, il y aura des piles aussi grosses, sauf que les leurs, ils les réassortissent plus souvent. C'est comme ça qu'on parle à un auteur.
Est-ce qu'on peut quand même revenir sur qui est ce chat, en fait, pour effectivement les gens, comme disait Mathieu, qui ne connaîtraient pas encore ses aventures, hein.
Bah oui, cet album sert à ça, justement. C'est l'histoire d'un chat qui a pris la parole dans une famille. Il y a une vingtaine d'années, je ne me suis pas demandé pourquoi. Et dans cet album, j'ai voulu raconter pourquoi. Enfin, il y avait toujours le nom dit. On comprenait que la maman n'était pas là dans cette famille et qu'il y a beaucoup de choses dont on ne se parlait pas. Et c'est pour ça qu'un chat a pris la parole. Et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce 9e album.
Sur ce que représente ce chat pour vous, vous dites c'est un peu ma tentative de garder une image féerique du Maghreb telle que me l'a raconté ma grand-mère. Une image féerique qui, selon vous, est en voie de disparition aujourd'hui ?
Oh non, ça va de mieux en mieux. Les gens s'aiment de plus en plus. Le débat sur le sacré et sur le religieux se passe très bien.
Ça s'apaise.
Tous les problèmes qu'on avait en Algérie dans les années 20 sont réglés. Les gens s'aiment. D'ailleurs, ce soir, je vais célébrer un mariage avec un curé, un rabbin, un imam. Et après, on va tous aller au dépôt. Non, ça se passe pas très très bien. Moi, j'ai perdu tous mes combats. Donc, mon espoir, il est dans mes livres. Mais blague à part, c'est vrai que personne ne fait jamais rêver avec le Maghreb. À chaque fois qu'on parle de Maghreb, tout le monde serre tous les organes qu'il a en se disant on va être stressé. Donc, je pense qu'on va vers ce qu'on nous raconte. Je ne crois pas aux contes de fées, mais en revanche, la cohabitation sans massacre immédiat, oui, j'aime bien l'espérer.
Le chat du rabbin, c'est donc l'image d'une société où les religions coexistent. Et on a tendance à oublier que c'est non seulement possible, mais que ça existe. Vous citez l'exemple d'une personne à New York qui vous dit « Quelle imagination d'inventer un univers où il y a des juifs qui vivent dans un monde arabe ?» Oui, parce on l'oublie presque que ça existe en fait.
Oui, oui parce que la réalité algérienne, avec tous les drames qu'il y a eu, c'est tout de même une réalité cosmopolite et composite de gens qui sont envahis les uns les autres depuis l'Empire romain et qui ont eu l'habitude de composer d'une certaine façon. Or, depuis les États-Unis, on voit un judaïsme ashkénaze, on connaît la réalité du Proche-Orient, on ne connaît pas la réalité de ces juifs qui ont l'air arabes, de ces juifs séfarades qui savent de moins en moins où se mettre aujourd'hui. C'est marrant parce qu'il y a la suite de La vérité si je mens qui est sortie il y a quelques jours. C'est presque un film d'histoire. Aujourd'hui, on se dit, mais on se souvient même plus de ce que c'était que cette époque où à Belleville, il y avait tout le monde ensemble. Je ne dis pas que ça allait bien. Je dis que les gens s'engueulaient, mais parfois ils rigolaient. Là, aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout. Et ça fait flipper.
Le départ de cet album, c'est Zlabia qui perd sa maman, mais elle ne le sait pas. Le rabbin ne lui dit pas. Il n'ose pas lui dire qu'elle a perdu sa maman. Ça fait forcément écho à votre propre histoire, Johannes Farr. Vous qui avez perdu votre mère à l'âge de 4 ans, vous avez besoin de parler à un moment de cet épisode de votre vie. Il y a un peu de vous dans...
Non, parce que j'ai raconté ma vie dans 10 milliards de bouquins. Par contre, la plupart de mes personnages sont orphelins. Parce qu'il y a beaucoup de faux orphelins dans les livres pour enfants, parce que tout le monde fantasme d'être orphelin. Moi qui ai vécu ce truc-là, je ne sais pas raconter un enfant autrement que comme enfant orphelin. Donc c'est le point de départ de plein de récits différents. Et là, comme Le chat du rabbin, c'est tout entier un récit sur la parole et sur la parole dans la famille. Donc quand on dit c'est magique dans une histoire, en général, c'est qu'il y a une vraie raison. Donc j'essaie, à un moment, le chat fout un tel bordel et le rabbin dit il fait un bruit. Et le rabbin dit c'est exactement de ça dont on avait besoin dans cette famille. Et le moment où il est seul avec sa fille et il dit tout va très bien, en fait, on voit bien que rien ne va du tout, il y a trop de silence dans cette famille.
Vous évoquiez tout à l'heure la situation actuelle interreligieuse, l'acceptation de l'autre, la situation qui ne s'est pas améliorée depuis 17 ans. Ça fait 17 ans que vous avez commencé Le chat du rabbin. Ouais. Ça vous inquiète tout ça quand vous voyez le débat actuellement sur le voile qui ressurgit encore en France? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attriste?
Vous savez quoi? Non, parce que c'est tellement nul, c'est tellement lamentable ce à quoi on assiste en ce moment que moi je considère que tous mes combats sont perdus, donc j'écris très librement. J'ai plus le moindre espoir que mes livres servent à quoi que ce soit ou que ça rassemble quiconque. Je pense que tous ces combats sont perdus.
Mais ça rassemble forcément, puisque Le chat du rabbin se vend bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de la population qui est très sensible à ces idées de tolérance.
Mais bien sûr. Mais les gens qui hurlent le plus fort sont ceux qu'on entend le plus, dans un camp comme dans l'autre, avec une énorme hypocrisie dans les deux camps, parce qu'on voit très très bien qu'il y a des sous-entendus dans un camp comme dans l'autre. Donc il y a les gens qui rêvent de massacre. Sont le plus entendus et ont le plus d'influence en ce moment. Donc, moi, je fais mes livres dans mon coin, mais je n'ai pas le moindre espoir que ça aille mieux. Et bizarrement, c'est assez libérateur. Ça donne envie d'être punk. J'ai vu le film Joker il y a deux jours. Je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur Europe 1. C'était un énorme fuck à tout le monde. Mais moi, sincèrement, j'ai envie d'un côté de faire des choses mignonnes comme le chat, de l'autre côté d'écrire d'énormes saloperies et de faire un bras d'honneur à tout le monde. Je n'ai pas envie de servir à quoi que ce soit dans ce monde-là. Au bout d'un moment, on a envie de dire aux gens, mais débrouillez-vous.
Alors là, on le sent aussi dans votre discours. Il ne faut pas penser que Le chat du rabbin est une BD didactique, mièvre sur on va tous vivre ensemble. Il y a beaucoup d'humour dans cette BD. Il y a une réplique que j'adore. Si j'étais antisémite, mon livre préféré, ce serait la Torah. Du début à la fin, il y a des juifs qui meurent. C'est presque de l'humour juif, ça.
C'est vrai que c'est très anxiogène. Enfin, l'histoire sainte des juifs, c'est l'histoire de toutes les fois où on a essayé de les massacrer.
C'est vrai.
Alors, moi, j'ouvre les textes saints en tremblant à chaque fois.
L'heure du dîner approche et vous n'avez pas le début d'une idée de recette. Délices in extremis, notre rubrique gastronomique vous sauve la mise. C'est généralement un moment où les idées fusent grâce à la complémentarité parfois sidérante entre Olivier Pouls et l'invité.
Des testicules de taureau.
Au Riesling.
Aujourd'hui, ça devrait être plus light puisqu'Olivier nous propose un petit plat facile que vous pourrez préparer pour déguster au bureau à la pause déj. Ça sera juste après Roméo Elvis, Soleil sur Europe.
Je pensais toujours au PS que j'arrive pas à gagner. Aujourd'hui c'est la même, mais mon esprit est en paix. Depuis que je suis avec toi, avec toi. Depuis que je suis avec toi, avec toi. Je regarde plus jamais l'heure, sauf pour savoir quand t'arrives. T'es la seule chose dont j'ai peur, la première place dans mon cœur. Mais je suis trop bien avec toi, avec toi. Mais je suis trop bien avec toi. Avec toi, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie, y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh, comme ça, regarde tout droit, une pour lui et
un idéaliste. Je peux pas cacher tout le mal par le bien que je réalise. Mais je nous vois dans le temps, plus avec toi qu'en solo. J'ai compris que c'était bon le jour où tu m'as fait la bise. Depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Et depuis que je suis avec toi, avec toi, avec toi, 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 toi. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. Et oh, comme ça.
Soleil, c'était Roméo Elvis, le frère d'Angèle sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il est le symbole vivant des ravages de la crise que nous traversons. Il y a 2 mois encore, il était un critique gastronomique reconnu et respecté, un cordon bleu dont la créativité culinaire nous faisait tous saliver. Aujourd'hui, après 62 jours et autant de bouteilles de Chablis descendues en solitaire dans sa demeure bourguignonne, Olivier Pouls, on peut le dire, a complètement pété les plombs. Son cerveau n'a visiblement pas supporté le confinement. Il se parle désormais à lui-même.
Ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bac à l'antique.
Oh la vache. Olivier, ça va mieux? Il serait peut-être temps de rentrer maintenant quand même, Olivier.
Écoutez, oui, je pense que là, il va vraiment falloir que je prenne la route du retour et des studios pour enfin, enfin... reprendre une vie normale.
Vous avez l'air désespéré là.
Mais non, rassurez-vous, tout va bien. Je
vous êtes content
du matin
de nous revoir.
Mais bien sûr, comme je disais encore en début de semaine, il me tâte de vous revoir.
C'est vrai, il nous tâte aussi, Olivier. Et il nous tarte aussi.
Elle est encore meilleure celle-ci, effectivement, parce qu'en plus elle est tout publique, elle est familiale, c'est bien.
Et parce qu'il va nous proposer une tarte, Olivier Pouls.
Oh, alors c'est encore plus astucieux que ce que j'imaginais.
Sauf s'il a changé la recette au dernier moment pour m'arnaquer.
C'est bien d'une tarte qu'il s'agit aujourd'hui, Olivier.
Je vais même dire des petites tartelettes pour faire encore plus élégant. Voyez-vous, des petites tartelettes à emporter demain au bureau, toutes fraîches, toutes printanières. Et je pense qu'il devrait rendre jaloux tous vos collègues au moment où vous allez les déballer, évidemment. Alors pour ça, il va quand même falloir les faire ce soir, passer peut-être faire quelques courses si vous n'avez pas tout ce dont il faut. Et c'est pour ça que je vous dresse tout de suite la liste. Alors écoutez-moi bien, il vous faut une pâte brisée, il vous faut un peu de fromage frais, alors un petit peu d'aneth, un citron, un joli concombre, c'est la saison, on est en pleine saison du concombre, c'est très printanier en plus. Alors du poisson fumé, je vous conseille soit de prendre du saumon si vous trouvez évidemment, mais sinon du hareng, ça marche très bien, c'est très très bon aussi.
Le hareng fumé, on n'y pense pas. Moi, hein.
Bah écoutez, j'essaierai de vous convaincre parce que franchement, c'est dommage de passer à côté de ce délicieux poisson qui non seulement est très bon pour votre santé, qui est en général mieux traité, on va dire, que le saumon fumé qui vient souvent d'élevage pas toujours très très recommandable. Et le hareng, c'est un poisson sauvage, c'est un poisson bleu qui est excellent pour votre santé. Je vous le recommande chaleureusement. Surtout dans la recette, vous allez voir qu'on va le goûter, mais c'est pas la star du truc, quoi.
Alors, qui est la star?
Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des petits moules à tartelettes, vous allez étaler la pâte brisée dedans et vous allez la cuire à blanc, c'est-à-dire non garni. On met juste dedans, vous savez, des haricots secs pour éviter qu'elle ne se déforme et qu'elle ne gonfle. Vous allez la cuire pendant 35-40 minutes dans un four à 170 degrés. Vous allez ensuite récupérer ces fonds de tartelettes et vous allez faire la petite préparation qui va servir à garnir. Alors ça, c'est le fromage frais qu'on aura mélangé avec de l'aneth, du sel, du poivre, un beau trait de citron, le concombre taillé en tout petits dés, c'est un peu l'esprit d'un tzatziki, et puis des petits morceaux de mon poisson fumé, alors de saumon pourquoi pas, ou de hareng, vous mélangez tout ça, ça va faire une crème légèrement fumée avec le croquant du concombre, ce côté un peu printanier, et vous allez garnir vos fonds de tartelettes avec cette préparation. Alors elle ne cuit pas, la tarte évidemment, elle est croustillante, et vous avez là de délicieuses petites tartelettes printanières au poisson fumé. Est-ce que ça vous a convaincu peut-être, Mathieu?
Ben, ça m'a convaincu, mais ça me paraît très compliqué pour moi quand même.
Mais non, c'est hyper simple.
Rigoler.
Franchement, c'est hyper simple. Ah oui, oui, vraiment.
Mais c'est parce que j'ai pas noté. D'habitude, je note. Quand je note, il faut que je visualise. Là, ça me paraît compliqué. Mais cette histoire de haddock ne m'a pas totalement convaincu.
Vous mettrez du saumon fumé. Vous aimez le saumon.
Je mettrai du saumon. Effectivement, voilà. Ça j'aime bien.
Et alors, Mathieu, cette recette peut aussi éventuellement fonctionner avec du caviar, si ça vous parle davantage.
Alors ça, moi, j'ai jamais eu la chance d'en goûter parce qu'il paraît que c'est très cher, mais peut-être qu'un jour vous me ferez découvrir ce mets raffiné. Moi, je prends des œufs de limpe. Vous savez, il faut savoir se contenter des choses simples. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas profité de cette période du confinement, Olivier, pour renouer avec la simplicité. J'ai l'impression que vous êtes toujours quand même très bling bling. Hein.
Non, je vous assure, du caviar, ça fait un bout de temps que j'en ai pas mangé. Hein.
Ce sublime mensonge.
Voilà,
merci Olivier Pouls, qu'on retrouve demain et tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Sera élu chroniqueur du jour. Dans les couloirs d'Europe 1, les pronostics vont bon train. Les vacheries aussi, chaque jour à cette heure-ci, certains ont les oreilles qui sifflent.
Escroquerie d'Anne Le Gall.
A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
C'est le moment que nos journalistes redoutent, mais que nos auditeurs, en tout cas ceux qui ont décidé d'assumer leur part de sadisme, adorent. Le moment du quitte ou double. Nos journalistes ont 10 secondes pour nous convaincre de voter pour eux. Attention, vous pouvez inverser la vapeur, mais au moindre faux pas, vous pouvez tout perdre, comme cette malheureuse Anne Le Gall hier.
Parce qu'on s'est émerveillé. Pardon, je perds ma voix.
Vous allez vous faire tester, puis on reviendra vers vous ensuite.
Non, pardon, je termine.
Ah, vous voulez terminer? Allez, tiens, alors allez-y.
Retrouvons la forêt avec délicatesse. Entendons cet appel de la forêt.
Ça aurait été dommage. de ne pas finir effectivement.
Alors, oh, pauvre Anne.
Pourquoi votre chronique était-elle la meilleure aujourd'hui, Alain Sirou?
Bon, parce que je vous ai parlé d'un monde étrange et pénétrant dont Stephen Hawking, vous savez, le fameux physicien disait, si vous sentez que vous êtes dans un trou noir, ne perdez pas espoir, il y a toujours moyen de s'en sortir.
Oh, je ne sais pas pourquoi vous avez pris cette voix d'outre-tombe,
oui, ça fait
qui était
un peu
vraiment
peur.
Flippante.
Ça fait un peu peur.
Fred Goati, pourquoi voter pour vous cet après-midi?
En ces temps difficiles, pour éviter de sombrer dans un trou noir, je vous ai fait entrer gratuitement dans le studio d'un extraterrestre nommé Stevie Wonder pendant qu'il était en train de chanter. Alors certes, c'était Superstition, mais je vous jure que ça porte bonheur.
Pas
mal.
Là, c'était très très cherché. Comme,
ah, oui.
Vous avez bien
en
entendu votre truc.
Avec, avec Alain Sirou, tout ça.
Oui, on a compris. Pourquoi voter pour vous cet après-midi?
Ouais, tout simplement parce que c'est un sujet qui aurait pu faire la une des journaux si tout le monde ne parlait pas du Covid, de la Covid.
Les extraterrestres existent.
Voilà.
Et qu'il y a tout dedans, de l'insolite, du son, du décryptage et pas une bête carte ou un mauvais
accent. Oh, ça y est,
comme
ça y est.
De Tarlé.
Axel de Tarlé, qu'est-ce que vous répliquez à votre cher Anis Mbida?
Bah plutôt que vous parler des ovnis délirants dans le ciel, moi je suis les mains dans la glaise, je suis dans le terroir et je vous ai proposé...
Le mec, il est dans son château en Sologne, il a les mains dans la glaise.
Je vous ai proposé un charmant tour de France, de nos régions en crise, avec le vignoble bordelais où l'on fabrique du gel hydroalcoolique, les terrasses vides d'Ajaccio sans personne, les plages désertes du bassin d'Arcachon. Écoutez, cette petite tour de France déprimée mérite bien la victoire.
Merci pour ces 47 secondes. De qui tout double, Axel de Tarlé. Je vais choisir pour qui je vais voter. Ça va aller très très vite, puisque la seule personne... Alors, non, en fait, ça va pas aller très vite. Tous les sujets étaient bien. Ouais. J'adore les extraterrestres. J'adore les trous noirs. J'adore la carte des régions. Mais le seul à nous avoir entraîné dans le studio de Stevie Wonder, il n'y en a qu'un. C'est le seul unique. C'est le Fred Goati. Un point pour vous, Fred. Eva Rock.
Ah bah Fred Goati. Aujourd'hui,
plus la fin de saison approche, moins vous vous fatiguez pour défendre vos choix, vous donnez le nom.
Vous êtes méchant parce que en fait depuis plusieurs jours, j'arrête pas de dire j'ai du mal à savoir à qui je donne mon point parce que vraiment toutes les chroniques sont hyper bien encore aujourd'hui. J'ai adoré la voix de Stevie Wonder.
Et vous entendez Eva? J'ai l'impression que Axel de Tarlé se fout de votre gueule.
Oui,
je l'entends. Qu'est-ce que vous susurrez Axel de Tarlé? Ça reste de la radio. Parlez fort.
C'est terrible, j'ai dit à ma fille, épluche les patates. Pour le dîner de ce soir. C'était pas pour toi, Eva.
Je me disais aussi, c'est bizarre qu'ils nous demandent d'éplucher les patates. Allez, joie du semi de confinement.
Bon, alors on en est à deux points pour Fred Goetti.
Deux
déjà.
Points pour Fred Goetti. Voilà. Romain Causer, notre réalisateur, va nous dire pour qui il vote.
Mathieu, je vais également voter pour Fred Goetti et Stevie Wonder.
Ouais, ouais.
C'est déjà la victoire de Fred Goetti. Ouais. Mais quel était le vote du public, Eva?
Fred Goetti.
Grand chelem pour Fred Goetti.
Le grand chelem, Stevie Wonder.
72e journée de l'équipée sauvage.
Bravo.
Écrasée par la chronique de Fred Goetti qui nous fait un ouh digne de ses dernières aventures, n'est-ce pas, dans un univers très peu hétérosexuel. Merci à vous, Fred Goetti. Merci à Eva Roque, Alain Sirou, Atissem Bida, Axel de Tarlé et Olivier Pouls. Romain Causer et Rémi Duprat en régie. L'équipée sauvage revient demain, 16h, bien sûr. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir, Nathalie.